Radio Starbucks.
Morning Edition from NPR News.
Aquí Santín de la House.
Radio Rosana Pipari.
Lo que se reproduce en esto en la radio.
France Inter, le 18-20.
Et voilà pour l'extrait de l'escale, reportage d'un jour dans le monde. C'était rapide et nous emmène en Palestine et en Israël ce soir au procès de la jeune Tamimi. Vous la connaissez, elle comparaît pour avoir giflé un soldat israélien. Et précisément, ce qui nous intéresse ce soir, c'est son procès et comment Israël gère la résistance non armée, sait-elle le faire ? Sous les radars, Florence Paracuelos aux États-Unis, au cinéma en Ukraine et dans une île pour femmes exclusivement. 18h50, Sandy Dauphin qui essaye de verdir et de refroidir la planète, c'est pas toujours simple. Ce soir, elle vient avec un dispositif pour éviter l'érosion des côtes, c'est plutôt ingénieux, c'est fait en bambou par une start-up française. 18h55, Le Monde à l'envers, Jean-Marc Four qui regarde les JO en ce moment et compte les nations engagées sur les doigts de la main. Ou presque. Mais avant, je vous promets qu'après ça, vous ferez vos sauces tomates tout seul avec des tomates achetées chez le voisin bio. Réellement, le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Fès. Un jour dans le monde.
La destination principale est située à plusieurs semaines de traversée, en Italie. 1000 tonnes de concentré chinois sont déchargées chaque semaine à Salerne. Le concentré chinois est ensuite reconditionné par l'industrie italienne. La recette est simple. Prenez du concentré chinois, diluez-le dans un peu d'eau, ajoutez une pincée de sel et le tour est joué.
Bonsoir Jean-Baptiste Mallet.
Bonsoir.
C'est un extrait de votre documentaire diffusé ce soir sur France 2, deuxième partie de soirée, 22h50. Un documentaire qui fait suite au livre que vous avez écrit, qui est paru l'année dernière, qui s'appelle toujours d'ailleurs, L'Empire de l'or rouge, chez Fayard. On va expliquer ce qu'on a entendu là, il y a un instant, avec cette histoire de concentré de tomates. Mais j'ai choisi cet extrait parce que ce que vous démontrez pendant une heure de docu, finalement, c'est combien ce petit fruit d'apparence fragile qu'est la tomate est aussi le symbole d'une mondialisation folle. Ce qui frappe, c'est l'absurdité, en fait, pendant toute une heure, en fait, quand on vous écoute.
Oui, en fait, moi, j'ai consacré 2 ans de ma vie à cette enquête. En fait, le film et le livre ont été faits simultanément.
J'imagine.
Ça m'a permis d'aller au bout des choses. Effectivement, pendant 2 ans, je suis allé de surprise en surprise. La première surprise, ça a été le rachat, en fait, d'une entreprise provençale par l'armée chinoise. J'ai tiré ce fil. Je me suis vite retrouvé face aux statistiques douanières impressionnantes des flux de concentrés de tomates chinois et notamment vers l'Italie. Et c'est curieux que vous ayez saisi cet extrait de Salerne parce que c'est ce qui m'a le plus impressionné, je crois, c'est l'arrivée colossale de concentrés chinois au sein de l'Union européenne, parce que pour moi, ça résume un peu l'absurdité. Une tomate, quelque chose qu'on peut faire en Provence, qu'on peut faire en Italie, qu'on peut faire en Espagne, et qu'on importe de l'autre bout du monde. Je crois que ça résume...
Pour les faire revenir, ce qui est complètement absurde, encore plus absurde, en fait.
C'est des chassés-croisés infinis de transformations. Donc, à l'autre bout du monde, on transforme des tomates spéciales d'industrie en concentrés qu'on conditionne dans des barils. Il y a ensuite des traders qui font de la spéculation, qui vendent ces barils à des transformateurs. Et en fait, ce que j'ai voulu faire, c'est remonter vraiment toute la filière mondiale, rencontrer ces acteurs et raconter tout simplement avec un récit, L'Empire de l'or rouge, ce film, cette complexité du monde à travers une narration.
Et comme vous dites, tomate spéciale, parce que d'ailleurs vous le dites au tout début du film, on pourrait jouer au ballon quasiment avec, en tout cas on peut la lâcher, quasiment elle rebondirait.
Alors les tomates d'industrie, le paradoxe, c'est que tout le monde en mange, mais que personne n'en a jamais vu. Et en effet, ce sont des variétés spéciales qui sont pensées pour les besoins de l'industrie. Et la peau est extrêmement dure et si vous la jetez violemment par terre, elle rebondit, la peau n'éclate pas. En fait, elles sont pensées pour être entassées dans les camions. Et donc, une tomate qui se trouve sous une benne de camion écrasée par des centaines de kilos de tomates ne va pas exploser.
Alors, vous l'avez dit, vous allez jusqu'à la Chine, vous faites beaucoup d'allers-retours. Il y a beaucoup de personnages clés parce qu'on va se rendre compte au fil de votre film et aujourd'hui aussi qu'il y en a 3 ou 4, pas plus en fait, des personnages qui prennent toute l'ampleur de l'industrie de la tomate dans le monde. Parmi ces personnages, il y en a un qui est le général Liu. Parlez-nous de ce monsieur. Le général Liu, c'est qui ?
Alors pour moi, ça a été une traque policière pour le retrouver parce que il avait un peu disparu de la circulation. C'est un personnage assez sulfureux. Le général Liu, c'est l'homme qui était à la tête de ce consortium donc lié à l'armée chinoise, le Bingtuan, puisqu'en fait, à l'extrême ouest de la Chine, il y a une région, le Xinjiang, où l'armée, depuis la colonisation en 1949, organise toute l'agriculture sur le territoire. Le général Liu, c'était le dirigeant de la branche tomate de l'armée chinoise, et c'est ce personnage qui avait racheté la conserverie provençale Le Cabanon en 2004. Pour moi, c'était un peu un rêve d'enquêteur de le retrouver, mais ça a été extrêmement compliqué, et puis de fil en aiguille, en travaillant dur, on a réussi effectivement à le rencontrer. C'était la première fois qu'il s'exprimait face à une caméra, et en fait, ce que j'ai découvert en faisant sa connaissance, c'est que désormais il faisait du business au Ghana, donc on le retrouve dans ce film au Ghana, puisque l'Afrique de l'Ouest est devenue un territoire chinois pour le concentré de tomates. C'est un personnage cupide, c'est presque un euphémisme de dire cupide.
C'est une espèce
cupide.
De pur capitalisme tel que la Chine a pu les produire ces 20 dernières années. En fait.
Il est effectivement, lui et son fils, sont l'incarnation effectivement d'une Chine convertie à un capitalisme brutal qui hybride en fait, comme une tomate, un capitalisme d'État chinois, et ce sont des gens qui savent parfaitement se glisser dans les réseaux aujourd'hui économiques de la mondialisation.
Non mais d'autant qu'il le dit lui-même, il a fait des meubles, il a fait de l'immobilier, il a fait du fourrage, maintenant il fait de la tomate et demain ce sera autre chose en fait.
Oui, il prévoit d'ouvrir désormais des casinos en Afrique aussi, et ce qui est assez intéressant effectivement, c'est de voir qu'en fait ce sont ces gens-là qui alimentent des millions de personnes aujourd'hui sur Terre. Moi, c'était très important pour moi de montrer qu'à travers la tomate, on peut expliquer aussi ce qu'on appelle parfois médiatiquement la crise des migrants. Beaucoup de migrants qui arrivent en Europe sont souvent de jeunes hommes ou de jeunes femmes qui ne peuvent plus travailler dans l'agriculture locale parce que les agricultures africaines aujourd'hui sont ravagées par les importations de denrées agricoles massives. Et donc, quand on inonde un marché africain de concentrés de tomates, eh bien, on prive les travailleurs agricoles africains de débouchés pour leur culture locale. Et donc, quelque part, le général Liu et son fils Quinton nous racontent aussi la crise des migrants.
Et on va y aller d'ailleurs au Ghana dans un instant. Il y a autre chose, moi, qui m'a frappé, parce qu'effectivement, vous lui posez la question, comment se fait-il que la Chine subitement se met à la tomate? Et en fait, ce sont les Italiens qui ont tout donné, une histoire complètement absurde, une histoire de troc. En fait, je vous donne l'usine et vous me donnez la production, c'est comme ça qu'on se paiera. C'est complètement dingue quand même.
Alors, il faut savoir que le business de la tomate en Italie, notamment dans le sud de l'Italie, en Campanie, entre Naples et Salerne, a toujours été une activité agro-mafieuse, qui a toujours attiré des capitaux de la mafia, soit pour blanchir des capitaux, soit pour tout simplement...
Mais donc, on blanchit en Chine, là en vendant l'usine, on blanchit en Chine, ou pas ?
Il y a eu, alors ça, je suis très prudent dans le livre, parce que c'est des dimensions d'enquête, moi je suis allé aussi loin que possible, mais il y a eu effectivement des rétrocommissions, j'ai des acteurs qui me l'ont raconté, et il y a eu effectivement des activités mafieuses et des capitaux ont circulé à travers la Suisse, ça je le raconte dans le livre, des capitaux qui effectivement sont passés de l'Italie à la Suisse, de la Suisse à la Chine, et en fait, ce grand transfert de technologie et toutes ces constructions d'usines en Chine ont fait l'objet effectivement de blanchiment d'argent.
Et c'est vrai que ça fonctionne comme le pétrole en fait. On installe les usines, on donne la main d'œuvre, on donne le savoir-faire, et puis ensuite effectivement le concentré revient. En gros, il va se faire raffiner ailleurs. Ça fonctionne exactement de la même manière.
Oui, aujourd'hui, on a une telle division dans les processus productifs. En fait, la division internationale du travail est devenue tellement complexe qu'effectivement, quand on voit un produit avec marqué Made in Italy ou Made in France, ça ne veut plus vraiment dire grand-chose, parce qu'il faudrait pour cela savoir exactement d'où viennent les ingrédients. Je crois d'ailleurs que il y a un combat, même s'il n'est pas partisan, mais il y a un combat politique à mener qui dépasse les clivages partisans, pour plus de transparence et de traçabilité des produits, parce qu'aujourd'hui, les consommateurs, quand ils se versent une giclée de ketchup sur leurs frites, ne savent pas d'où viennent les tomates, et je crois que ça devrait être un droit politique fondamental de savoir ce qu'on mange.
Alors justement, tiens, puisque vous parliez de cette fameuse giclée de tomates, on va revenir en Chine dans un instant. Je voudrais qu'on aille en Amérique du Nord, chez Heinz, parce que le symbole du ketchup, de la culture américaine, et la nôtre évidemment aussi, c'est ce ketchup-là, qui ne se produit plus du tout en Amérique, qui a licencié combien ? 7500 personnes, 5 usines, là c'est tout dernières années.
Depuis le rachat par Warren Buffett, effectivement, l'un des grands milliardaires. Heinz, c'est une entreprise très intéressante parce que souvent, dans les manuels d'histoire, quand on parle du capitalisme industriel, on nous parle de Ford. Heinz, c'est tout de même une entreprise qui est vraiment aux origines de l'agroalimentaire. Les toutes premières usines de l'agroalimentaire de l'histoire.
Les premières chaînes, même, vous dites, avant même Ford.
Et effectivement, avec un recours au travail à la chaîne avant Ford. Et alors, dans nos manuels d'histoire, on voit souvent des hommes musclés qui transpirent sur des chaînes de montage. images, en fait, on pourrait voir des femmes, puisque c'était des femmes qui travaillaient dans ces conserveries majoritairement. Et donc, c'était aussi important pour l'histoire de la condition ouvrière de parler de ces femmes dans les conserveries.
Alors, la condition ouvrière aussi, vous parlez le fameux programme Bras Zéro. Ce sont eux qui ramassaient autrefois les tomates aux États-Unis. Aujourd'hui, tout ça a été plus qu'automatisé, sur-automatisé. Voici un extrait de votre film avec un monsieur qui est aussi un personnage principal qui s'appelle Chris Roffer. On va l'écouter une seconde.
Ici, chaque mouvement est chronométré, à commencer par ceux des centaines de camions. Chaque jour, ils déversent 20 000 tonnes de tomates fraîches.
Nous commençons à remplir d'eau les remorques avant, pour économiser 15 secondes. Ainsi, quand ils arrivent ici, ils sont déjà assez remplis d'eau.
Économiser 15 secondes par camion, c'est gagner 7 minutes par heure, soit l'équivalent d'une journée de travail par an. Ici plus qu'ailleurs, time is money.
Voilà, une journée par an, donc, ce qui paraît complètement dérisoire. Lui aussi, Chris Roffer, est un personnage principal, j'allais dire. Au fond, il y en a combien des hommes? Il y en a combien? Il y en a trois? Il y en a quatre qui se partagent?
Alors, Chris Roffer a la particularité d'être le numéro un mondial. Avec trois usines, il produit 12% du concentré de la planète. Et Chris Roffer est assez fascinant parce que dans cette industrie, on a beaucoup de gens très cupides qui finalement ne pensent qu'à s'enrichir. Chris Roffer a une particularité, c'est qu'il pense. C'est un intellectuel, en plus d'être un entrepreneur. Et c'est quelqu'un qui a une vraie vision. Alors c'est un libertarien, c'est vraiment, il est à la fois anarchiste et ultra-libéral.
Un peu un artiste de droite en fait, le libertarien.
Totalement, ouais. Voilà, il a une vision, pour lui il faut que l'économie soit totalement privatisée, plus on peut détruire des postes et les remplacer par des machines et gagner en compétitivité, mieux c'est. C'est un dogmatique, un idéologue, mais c'est très impressionnant de se retrouver dans ces usines, parce qu'en fait ce sont ses idées mises en action, et les usines de la Morningstar sont aussi grandes que des petites villes. Et mais on n'y croise pas de travailleurs, en fait. C'est pratiquement 70 ouvriers par rotation pour des quantités de tomates absolument phénoménales. Et tous les Nord-Américains consomment des tomates Morningstar aujourd'hui.
Vous montrez la salle de contrôle, parce que ça se pilote quasiment. Une usine pareille, ils sont deux pour piloter une des plus grandes usines du monde, quasiment, non? Est-ce qu'on peut dire ça ou pas?
Oui, c'est la plus grande usine du monde, absolument. Là où on tourne, c'est la plus grande usine de transformation de tomates au monde. Et effectivement, cette scène est très impressionnante dans le documentaire, parce que on a deux salariés en contrat de saison qui en fait sont là à scruter des écrans et qui s'ennuient, et l'usine effectivement a été totalement automatisée. Et il faut savoir que ce modèle-là, le modèle californien, c'est le modèle qui est copié par les Chinois et les Italiens aujourd'hui, et c'est finalement un bon cas d'école de ce que nous prépare l'agriculture de firme, parce que c'est le modèle clé que cherche à copier en fait toute l'agriculture productiviste
et
aujourd'hui.
Puisque vous nous avez ramené en Chine et en Italie, on va écouter un autre extrait qui là aussi m'a scotché.
Une première surprise m'attend dans les entrepôts. Gina, ça ne vous rappelle rien? C'est la cousine chinoise de Gino, la fameuse marque créée en Italie et qui contient en réalité du concentré chinois. Pour concurrencer leurs anciens partenaires qui cachaient du concentré chinois dans des boîtes italiennes, les Chinois camouflent à leur tour leurs tomates dans des boîtes aux couleurs de l'Italie.
Et c'est un peu l'arroseur arrosé, la Chine qui a dépassé l'Italie et inversement, mais au bout du bout, et c'est aussi ce que vous dites, qu'on l'achète en Italie, en Chine, qu'elle s'appelle Gino ou Gina, c'est le même concentré chinois.
Ce qui s'est passé, c'est que les Italiens sont allés en Chine en se disant « Génial, on va faire de la pâte de tomate pas chère, on va avoir du concentré, on va pouvoir le mettre dans nos boîtes et prendre les marchés africains notamment avec ça. » Et au bout de quelques années, les Chinois se sont dit « Mais pourquoi est-ce qu'on envoie autant de pâtes en Italie? On va faire nous-mêmes nos marques de concentré. » Les Italiens avaient créé Gino avec du concentré chinois. Les Chinois se sont mis à faire Gina, et en fait ce qu'on découvre dans le film, c'est que les Chinois, après, pour être plus compétitifs que les Italiens, ont commencé à couper le produit.
Alors voilà, avec une espèce de substance blanche que vous nous montrez d'ailleurs, c'est quoi exactement d'ailleurs?
Alors ça peut être du dextrose, ça peut être de la fibre de soja, en fait ce sont des épaississants qui coûtent moins cher que le concentré de tomate, avec lequel les Chinois coupent en fait le concentré qu'ils vendent en Afrique.
Mais coupent combien? Parce qu'il est un peu gêné, mais enfin il répond quand même à votre question, ce qui m'a aussi étonné, il dit c'est 80-20. En gros, en réalité, est-ce que c'est 80-20 entre la tomate et les substances?
Il faut savoir qu'en fait, moi je me suis fait passer pour un acheteur. En fait, j'ai dit que j'avais une famille qui avait des intérêts au Gabon et que je suis allé voir beaucoup de conserveries chinoises, 15 conserveries chinoises, en disant que je voulais importer du concentré en Afrique de l'Ouest. Et il faut savoir qu'en fait, c'est le distributeur qui décide. Si vous voulez mettre 20% d'additifs, vous mettez 20% d'additifs. Si vous voulez en mettre 50, c'est vous qui dites en fait aux Chinois combien vous voulez d'additifs.
Et on est d'accord, Jean-Baptiste Mallet, c'est légal.
Non, c'est tout à fait illégal. Ah. C'est une fraude que je dénonce dans mon livre et que je dénonce dans ce film.
Parce que lui dit, mais j'ai les autorisations nécessaires.
Votre c'est faux. En fait, sur l'étiquette, il ment. Le problème, c'est que Pékin ne fait rien et laisse faire. Le gros problème de la Chine aujourd'hui, c'est qu'il y a une contrefaçon des normes qui est terrible, et le gouvernement ferme les yeux parce que ça fait rentrer des devises. Et le problème, c'est qu'à la fin, ce sont les Africains qui mangent ça, et c'est une véritable catastrophe sanitaire qui nous guette, hein, vraiment.
Et alors, le troisième acteur, effectivement, ce sont les Africains dont vous avez déjà évoqué tout à l'heure. Le Ghana, qui est très très consommateur, ce que j'ignorais, énormément consommateur de sauce tomate, qui produit des tomates, qui produisait des tomates, qui les transformait aussi, mais voilà comment ça se passe aujourd'hui.
La dernière usine de transformation de tomates a fermé en 2012. Un comble dans un pays où l'on consomme 10% de concentré en plus chaque année. La hausse ne profite qu'aux importations, multipliée par 30 en 15 ans.
Made in China.
Tout le concentré que je vois vient de Chine. Je ne comprends pas. Toutes les boîtes viennent de Chine.
Moi-même, je suis surprise.
Maintenant, tout vient de Chine. Ils ont conquis le monde entier.
Et ce qui est fou, c'est ce que vous montrez, c'est que les Chinois, le même général Liu, le même, c'est son fils qui s'en occupe de cette usine-là, les mêmes Chinois ont délocalisé au Ghana, en fait, parce que finalement, l'ouvrier au Ghana coûte encore moins cher que l'ouvrier chinois.
Oui, absolument. En fait, comme il payait des droits de douane sur des boîtes de concentré coupées, ils se sont dit que ça coûtait moins cher de faire venir directement des grands barils de concentré. Et maintenant, ils mettent en boîte dans les ports africains. Le problème, c'est que beaucoup de dirigeants africains croient que ça crée de l'activité économique parce qu'ils voient des usines ouvrir. En réalité, ces usines en zone portuaire ne transforment pas des tomates locales. Et donc, la personne qu'on vient d'entendre, c'est un producteur de tomates ghanéen qui, lui, ne peut plus écouler sa production. Donc, c'est quelque part une illustration clé des ravages du libre-échange absolu, parce que si on ne défend pas les filières locales en Afrique, que vont faire les Africains aujourd'hui?
L'agriculture,
c'est 80% de l'activité en Afrique aujourd'hui.
Partir et se retrouver dans cette situation absurde où ils traversent, ils vont en Europe et ils se retrouvent à cueillir des tomates en Italie, ce qui est quand même le
encadré
comble,
par la mafia.
Encadré par la mafia. Ça s'appelle L'Empire de l'or rouge. C'est diffusé ce soir, 22h50, sur France 2. Je rappelle le livre aussi, qui s'appelait pareil et qui est publié chez Fayard. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Mallet.
Merci.
France Inter. Fabienne Saintès. Un jour dans le monde.
Suite d'Un jour dans le monde, en reportage en Israël avec Étienne Monin et la jeune Tamimi qui passe au tribunal aujourd'hui sous les radars, avec notamment une île réservée aux femmes avec Florence Paracuelos. Sandy Dauphin est là aussi pour nous redonner fond à la planète. Bonsoir Sandy.
Bonsoir.
Et une méthode finote pour lutter contre l'érosion des côtes.
Oui, je vous emmène à la plage, ça vous fera peut-être prendre un petit peu l'air, respirer un peu. Hein.
C'est bien, l'air marin.
On
c'est
va
bien
parler de l'érosion du littoral et d'un dispositif créé par une start-up française, un récif artificiel en bambou.
Eh bien écoutez, à tout à l'heure Jean-Marc Four, Le Monde à l'envers. Bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Comptez les athlètes des JO.
Ouais, ce soir je vais tuer l'amour en ces heures de cocorico olympique. On va parler des jeux. Je ne sais pas si ce sont des jeux, mais ils ne sont pas très olympiques.
Allez, à tout à l'heure à tous les deux. C'est Adriano Celentano sur France Inter. Et franchement, je ne peux pas prononcer le titre. Désolé.
Calling us and I choose all right. sit on slimming and you can only see it till and it is an orbit of whole hand contained. Let face go. We can see and in the standard and the shoes are coming in. This is 200 cars and over 400 grads of state. Hey, I smile, chest, let in the hills to know it brings on high.
Je voudrais dire que personne autour de cette table ne sait prononcer le nom de cette chanson d'Adriano Celentano, même pas Florence Paracuelos.
France Inter.
Good evening and welcome.
Je размахивал копьем.
Un jour dans le monde.
Intervencia extra.
J'aurais pu essayer, ben non.
J'aurais pu dire Celentano.
Oui, j'aurais pu dire. Je l'ai dit une fois, ben, voilà, un coup l'un, un coup l'autre. Florence Paracuelos avec l'information coincée dans les recoins de la planète. On commence avec l'enfer américain des erreurs judiciaires.
Et oui, c'est l'histoire de quatre hommes en colère, quatre hommes noirs arrêtés et condamnés pour le meurtre de deux concessionnaires auto en 1995. Le plus jeune avait 15 ans, le plus vieux 19. Ils ont passé 20 ans en prison avant que la justice ne s'aperçoive de son erreur. Une empreinte digitale exploitée des années plus tard a prouvé que le meurtrier était un trafiquant de drogue. Les quatre hommes ont fini par être innocentés l'an dernier. Hier, ils ont porté plainte contre le procureur et la police de Chicago, contre 13 policiers chargés de leur garde à vue. À l'époque, on leur a fait signer des aveux en leur faisant croire que c'était des documents administratifs sans intérêt. Ils n'ont pas vu d'avocat pendant cette garde à vue, début de leur cauchemar. Aujourd'hui, évidemment, ils réclament une compensation.
At age 16, I was in prison.
Alors là, c'est LaRod Stiles qui parle en conférence de presse. J'ai été emprisonné quand j'avais 16 ans. Mes parents sont morts pendant ce temps-là, explique-t-il. Maintenant, je veux aider les jeunes à se battre contre le système judiciaire. Un de ses trois autres compagnons d'infortune fait le même projet. Aucune somme d'argent ne remplacera ce que j'ai perdu, mais maintenant, je veux aider ma communauté. Histoire tristement banale aux États-Unis, Fabienne, où 57 personnes ont été innocentées de meurtre rien qu'en 2016. Après des années, là aussi, passées en prison.
Allez, on file en Ukraine maintenant, au cinéma, où c'est un film de guerre qui cartonne depuis le début de l'année.
Et c'est leur guerre que les Ukrainiens vont voir. Cyborgs, un premier film sur le conflit du Donbass en 2014 et
2015.
Tous les archétypes du film de guerre y sont dans ce film, avec du matériel prêté par l'armée ukrainienne, des chars notamment, parce que c'est la version ukrainienne qui est donnée à voir. Sous l'angle de la longue bataille de l'aéroport de Donetsk, les soldats ukrainiens vont le défendre pendant 8 mois, cet aéroport, contre les séparatistes pro-russes. L'issue, c'est la défaite au milieu des ruines fumantes des terminaux construits en 2012 pour l'Euro de foot. C'est donc un échec qui est célébré dans ce film, ce qui est plutôt rare en matière de cinéma de guerre et de cinéma patriotique. Ce que le réalisateur a voulu faire, c'est montrer l'engagement de simples citoyens à l'époque qui ont tout lâché pour se battre, comme cet acteur de 40 ans devenu commandant, un des héros de ce film qui fait pleurer les spectateurs tant cette histoire est fraîche. La guerre n'est pas terminée dans l'est de l'Ukraine, faite de combats sporadiques. Elle a fait 300 morts encore l'an dernier côté ukrainien.
Allez Florence, on part en vacances ?
Direction la Finlande, Fabienne, une île au large du continent.
Welcome to Super She Island. We're getting ready for your visit. It's moody weather here.
Mais oui, Fabienne, bienvenue à Super She, Super Elle, hein, une île réservée aux femmes, achetée par une businesswoman pour des vacances sans hommes dans des bungalows douillets au milieu des sapins. Christina Roth s'est dit que ce serait beaucoup plus reposant comme ça. Après avoir passé des vacances dans un club de luxe en Californie, où elle s'est aperçue que les femmes ressortaient leur rouge à lèvres à chaque fois qu'un beau mec entrait dans leur champ de vision. Donc son mantra dans cette île, dans son île, ce sera: laissez vos hormones tranquilles et votre séduction au vestiaire. Repos ultime, assorti de cours de yoga et de cuisine à partir du mois de juin pour un prix qu'on imagine assez élevé. Il n'est pas encore public. On n'est pas sûr que ça nous fasse tout à
pas
fait
tout
rêver.
Pas tout à fait, mais je voudrais
Fabienne.
Quand même dire que Jean-Marc Four est entré dans le studio et qu'aucune de nous n'a remis son rouge à lèvres.
Je suis très déçu.
Ça doit vraiment être un signe.
France Inter,
Doha, Harare, Jérusalem, Pékin,
le 18-20,
le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
São Paulo,
Beyrouth,
France Inter.
Ah, c'est venu, c'est venu, c'est venu, c'est venu.
Vous l'avez vu, hein, cette vidéo, sans doute. Sinon, vous vous souvenez de la scène. Cette jeune femme, elle a 17 ans seulement. Elle est filmée par un téléphone portable. C'est sa famille qui tient ce téléphone. Elle interpelle et puis elle gifle un soldat israélien. Elle donne des coups de pied aussi. Elle est blonde, elle est bouclée. Elle s'appelle Tamimi. Bonsoir, Étienne Monin.
Bonsoir, Fabienne.
Le correspondant de France Inter à Jérusalem. Étienne, cette jeune femme, cette adolescente, a été arrêtée et son procès a lieu aujourd'hui devant un tribunal militaire. Une forme de résistance, de lutte non armée qu'Israël a toutes les peines du monde à gérer. C'est ce qu'on va voir ensemble. D'abord, racontez-nous un peu ce procès aujourd'hui qui se déroule là. À quoi elle ressemble, cette cour militaire? C'est quoi?
Alors d'abord, c'est un alignement de bâtiments qui ressemble à des algécos. Autour, tout est ceinturé par des grillages. Il y a un juge, un procureur. C'est l'outil légal des Israéliens pour poursuivre les Palestiniens sous occupation. Dans ce décor assez gris, il y a cette jeune fille. Aed Tamimi a fêté ses 17 ans le mois dernier en détention. Elle a l'air plutôt en forme. Elle est coincée sur le banc des prévenus. Elle porte une veste de détenu vert kaki. Ses chevilles sont entravées par des chaînes. Elle envoie des signes à sa famille. Elle semble plus concernée par ce rapide contact que par les échanges autour du juge qui vont statuer sur son sort. Enfin, il y a une bulle légale et médiatique autour d'elle. Plusieurs diplomates européens sont dans la salle pour observer. Il y a des dizaines de journalistes engagés depuis des semaines dans la couverture du destin de cette jeune fille qui a basculé avec son arrestation mi-décembre. D'ailleurs, le juge a décidé aujourd'hui le huis clos, soupçonné par la défense de vouloir étouffer la publicité autour de cette affaire.
Alors on a entendu, hein, Étienne, les cris, la vidéo de la gifle. Je voudrais que vous nous mettiez un peu de contexte. On est où? Le village de cette jeune fille, c'est où? C'est quoi?
Alors c'est le village de Nabi Saleh. Il s'est taillé une réputation depuis quelques années. Les habitants manifestent tous les vendredis pour protester contre l'occupation et ses conséquences. Ici, le détournement d'une source au profit d'une colonie voisine. Si on résume à la hache, Nabi Saleh, c'est une grande tribu. Les Tamimi sont une grande famille. Le père a fait la première intifada. Il est convaincu que la résistance armée mène à l'échec. Il a donc théorisé avec d'autres la résistance à l'occupation, qu'il appelle non-violente, qu'on appellera non-armée. Il s'appelle Bassem. Son outil, c'est l'image. Il l'oppose à la force militaire et ça a créé plusieurs chocs. En 2012, les images d'une petite fille de 11 ans, poing levé contre un soldat, crèvent l'écran. En 2015, cet enfant est à nouveau sur les vidéos dans une empoignade qui dévalorise l'armée israélienne. Ce bébé palestinien, c'est Aed Tamimi. Elle a déjà les cheveux blonds, elle est clairement élevée au lait de l'occupation, engagée dans cette guerre médiatique qui agace profondément l'opinion publique israélienne. L'affaire qui nous occupe aujourd'hui, c'est l'image de trop, la gifle, c'est David contre Goliath, cela devient viral, l'image ne colle pas avec la politique dominante du gouvernement, la droite demande l'arrestation de la jeune fille, elle est sortie de son lit en pleine nuit par des soldats. C'était il y a presque 2 mois et depuis elle est en détention.
Et alors avec un retentissement, Étienne, qui est énorme et qui a évidemment largement dépassé les frontières d'Israël et de la Palestine.
Oui, cette affaire illustre les dégâts créés par l'occupation. Elle réveille l'opinion publique sur le sort de plus de 300 mineurs palestiniens emprisonnés. Et elle offre aux Palestiniens un visage pour incarner une résistance inoxydable à un moment où les figures ont disparu et où les élites politiques se font mettre à genoux par les dirigeants israéliens et américains. Ce visage, c'est cette jeune fille blonde aux yeux bleus, aux longs cheveux frisés, l'image d'une Palestinienne belle et fière, alors que la Palestine, en réalité, dans les faits, est au bord de l'affaissement miné à l'intérieur et à l'extérieur.
Alors Étienne, vous êtes retourné dans le village d'Aed Tamimi et de sa famille, une sorte de village gaulois, en fait, qui résiste envers et contre tout, où là-bas, c'est une véritable héroïne.
Oui, cette affaire a donné une surface médiatique inespérée au combat contre l'occupation. Elle inspire les générations. L'exemple le plus frappant est celui de Jenna Ayad. Elle a 11 ans, elle en fait 14. C'est une petite poupée aux yeux bleu-vert qui parle un anglais parfait. Elle se présente comme journaliste dans le village. Elle a 250 000 followers sur Facebook et elle soutient la grande Ayad malgré les risques encourus.
If anybody came to your house and wanted to kill the children playing near your house, would you stay calm and doing nothing?
Mais si quelqu'un venait chez vous et voulait tuer les enfants qui jouent près de votre maison, est-ce que vous resteriez calme? Vous ne ferez rien ? Hein ? Bien sûr que non. Elle ne voulait pas que les soldats rentrent dans sa maison et tirent sur l'enfant qui jouait à côté. C'est son droit. C'est mieux d'être arrêté que d'avoir à pleurer un enfant.
Est-ce que c'est un modèle ?
Bien sûr qu'elle est un modèle pour les gens, parce qu'elle est brave, parce qu'elle est courageuse. Et elle a une très belle personnalité. Donc elle est un modèle, oui.
She has a very nice personality. Like, so she is a model, yeah.
Ce qui est fascinant, Étienne, c'est désormais comment les autorités israéliennes, comment la société israélienne est capable de réagir à cette forme de résistance-là. Et la réponse, c'est qu'elle a beaucoup de mal à avoir une réponse. Je voudrais qu'on écoute ce qu'en dit son avocate. C'est vous qui l'avez rencontrée. Elle s'appelle Gabi Lasky.
Because they're afraid that more people will take into non-violent resistance, and that
parce qu'ils ont peur qu'il y ait de plus en plus de personnes qui agissent de façon non violente et parce que cela amènerait la création d'un État indépendant, ils veulent détourner les gens de cette voie. Le seul outil qu'ils aient, c'est d'arrêter les manifestants non violents. Ils les arrêtent, les poursuivent et essayent de les garder en détention aussi longtemps que possible. Puis, ils utilisent la cour militaire comme un outil pour maintenir l'occupation et pour décourager les activistes non violents.
As a tool to perpetuate occupation and to deter non-violent protesters.
C'est incroyable de dire à un militant non violent qui proteste contre l'occupation sur sa propre terre que c'est un criminel.
Protest against occupation in your own land is a criminal activity. But this is exactly
what c'est exactement ce que fait la cour militaire. Et elle est complice quand elle envoie une jeune fille de 16 ans en prison parce qu'elle a résisté à l'occupation de façon non violente.
Étienne, cette avocate israélienne, rapidement, est-ce que vous pouvez nous dire qui c'est, cette israélienne qui défend les Palestiniens ?
C'est une figure, elle défend à la fois les activistes palestiniens, elle est responsable des principales ONG israéliennes opposées à l'occupation. Elle est engagée en politique, elle est en quelque sorte l'autre côté du miroir quand elle défend Ed Tamimi, puisque elle aussi a été modelée par l'occupation, avec une différence, c'est ce qu'elle dit, elle a eu le choix, contrairement à Ed Tamimi.
Étienne Monin à Jérusalem pour Un jour dans le monde. Merci beaucoup, Étienne. La suite, c'est Arad Kilo sur France Inter. Chaos Embedded.
Flip it on ya, raise the bar and they move it on ya. Take you off, the goal is farther. Come harder, start a new method. I'd say revolution, but the word been deaded. Let it, chaos embedded. They'd rather use terror, but if we organize, they can get it.
Bah oui, en effet, ça s'arrête d'un coup, dites donc. Arad Kilo, Mamani Keita, pardon, la chanson s'appelle Chaos Embedded.
France Inter.
Climate change is real.
Fabienne Saint-Esse.
It is happening right now. Let us not take this planet for granted.
Un jour dans le monde.
L'actualité en série le mardi essaie de verdir et refroidir la planète et c'est pas toujours simple. Sandy Dauphin, ce soir, un peu d'optimisme, vous allez nous présenter un processus qui permet de retenir l'érosion des côtes. C'est un dispositif inventé par une start-up française. C'est en bambou et c'est une sorte de barrière pour casser la houle en fait. L'expérimentation a débuté la semaine dernière dans les Alpes-Maritimes à côté de Nice.
Oui, tout près de Nice, donc sur une portion de départementale située le long de la mer entre Villeneuve-Loubet et Antibes. Alors c'est une route qui est parfois fermée 5 à 7 fois dans l'année. Elle est régulièrement submergée en cas de tempête. Et comme beaucoup de plages de la Côte d'Azur, ici, le trait de côte a reculé de 10 mètres en 10 ans. Alors d'habitude, on remet des galets sur la plage, mais c'est sans fin puisque la mer emporte les galets, il n'y a plus qu'à recommencer et cela coûte cher. Donc cette fois, le Conseil général des Alpes-Maritimes teste un nouveau dispositif plus écolo. La semaine dernière, plusieurs barrières de bambou ont été immergées à 5 mètres de profondeur au large de la plage de Vaugrenier. Le but est d'atténuer la houle.
Vous avez des rangées de bambous qui sont installées en quinconce, qui sont exactement dans l'axe d'incidence de la houle.
Pierre Farnol, océanographe et sédimentologue, a breveté ce dispositif baptisé Rebambe. Pourquoi le bambou? La réponse au micro de Pauline Renoir de France Bleu Azur.
C'est un bois, c'est du bois. On évite le béton, on évite le plastique. Et on veut aussi créer un habitat un petit peu sous-marin qui peut être intéressant écologiquement et voir le bambou, comment il va vivre sous l'eau, comment il va être colonisé. C'est très très résistant. On construit en Thaïlande des maisons de plusieurs étages avec des bambous de ce type-là.
Voilà, cette expérimentation menée avec le laboratoire GéoAzur de l'Université de Sophia Antipolis a 3 ans pour faire ses preuves.
Alors, c'est pour ça d'ailleurs que ça nous intéresse dans Un jour dans le monde, parce que cette start-up voudrait rendre son procédé exportable. L'érosion, évidemment, Sandy, ça concerne le monde entier.
Et oui, si ça marche de ce côté de la Méditerranée, voilà. Pourquoi pas en Tunisie ou au Maroc, des pays confrontés eux aussi à l'érosion de leur littoral. L'avantage, eh bien, le coût est relativement faible. La matière première, c'est du bambou. Le montage est assez simple. Il faut une embarcation et quelques plongeurs pour installer le dispositif très léger.
D'autant que trouver des solutions pour se protéger des assauts de la mer, on va en avoir besoin encore plus puisque la montée des eaux s'accélère. C'est ce que dit une nouvelle étude que vous avez entre les mains.
Oui, le niveau de la mer augmente d'environ 3 mm par an. Eh bien, ce rythme s'accélère. Il pourrait plus que tripler d'ici la fin du siècle pour passer à près de 10 mm par an. Le niveau des océans augmenterait donc de plus de 60 cm en 2100. En 2100, ça vous parle plus. Et encore, c'est une estimation prudente. Cette étude a été réalisée par le Centre de recherche en astrodynamique du Colorado. L'intérêt, eh bien, c'est sa fiabilité, sa robustesse, comme disent les scientifiques, car elle utilise les données satellites de ces 25 dernières années, des données corrigées. Annie Cazenave a apporté son expertise à cette étude américaine. Elle est chercheuse au laboratoire d'études en géophysique et océanographie spatiale, le LEGOS, basé à Toulouse.
On pensait que la mer montait à vitesse constante. Là, on voit que c'est plus vrai, puisque on a des mesures de meilleure qualité, on va dire, où on a corrigé les mesures de défauts qui existaient, et on s'aperçoit que ça accélère, elle monte de plus en plus vite. Alors on se dit, c'est dû à quoi? Et on voit que c'est le Groenland, l'Antarctique, qui sont les principaux responsables. On constate, grâce à l'observation, que effectivement, ils perdent de la glace de façon accélérée, et que c'est ce phénomène-là qui est la cause de l'accélération de la hausse de la mer.
Et oui, ça fond. Cette étude est un énième avertissement pour dire aux zones côtières qu'il faut se préparer et s'adapter.
Énième avertissement, comme vous dites, Sandy Dauphin. Merci beaucoup, Jean-Marc Fourella.
Le 18-20, Fabienne Saint-Esse. Sur France Inter.
Jean-Marc qui met le monde à l'envers tous les soirs dans Un jour dans le monde. Vous voulez nous parler des JO, Jean-Marc? Avec plaisir, parce qu'on commence à engranger des médailles en combiné, en biathlon, en ski de bosse. On est 6e au classement des médailles. C'est pas si mal, mais vous avez décidé d'être rabat-joie. Vous trouvez que ça ressemble pas vraiment à des Jeux. Et dans votre monde à l'envers, vous nous dites même que c'est pas des vrais Jeux Olympiques.
Et pour cause, on est très loin de l'universalité du sport. Bon, il y a quelques exceptions. Par exemple, Pita Tofa Tofua. Il participe au ski de fond. Il vient de l'archipel des Tonga militaire dans le Pacifique. À l'origine, il pratiquait le taekwondo, ce qui n'a rien à voir. Ouais. Mais là, il s'est qualifié une extrémiste en ski de fond. Ou bien, il y a Carrie Russell. Elle vient de la Jamaïque, dans les Caraïbes. Elle, c'est une ancienne sprinteuse. Elle est engagée en bobsleigh. Mais je pourrais pas continuer la liste très longtemps parce que, en fait, les Jeux d'hiver passent totalement inaperçus sur plus de la moitié de la planète, en Afrique, en Asie du Sud, en Amérique latine. Et pour cause, puisque toutes ces régions du monde affichent zéro médaille au compteur dans toute l'histoire. Vous voyez où je veux en venir, les JO d'hiver, c'est un club pour VIP. Bon, ok, officiellement, il y a 92 délégations, mais ça c'est pour l'aventure. En réalité, si on met de côté le ski alpin et le ski de fond, il n'y a que 32 pays représentés dans les 13 disciplines restantes. Et sur les 205 membres du CIO, ça fait quand même pas foule. Et dans certains sports, c'est encore plus sélect. Par exemple, seulement 13 pays pour le curling. Vous savez, ce sport méconnu où on lance des pierres polies sur la glace. Ça, je sais que vous êtes experte. Hein,
oui, absolument. Voilà.
C'est comme les galets de sanglier dauphin. Ouais. Bon, résultat, même en cumulant toutes les compétitions de toute l'histoire des Jeux, ce sont toujours les mêmes 20 pays qui toutes les médailles. Alors, on n'ira pas jusqu'à dire à vaincre sans prix, long triomphe sans gloire, parce qu'on serait bien incapable quand même d'approcher les performances de ces champions, surtout en curling.
C'est vrai.
Mais on ne peut pas dire qu'on parle de sport universel.
Alors, ce n'est pas seulement une question de neige. Ce que vous nous dites, vous, c'est que c'est aussi un club de riches, tout ça. En fait.
Exactement, parce qu'effectivement, on pourrait se dire bah, forcément que tout le monde ne peut pas gagner au JO d'hiver, hein, il faut juste vivre là où il y a de la neige. C'est là, et cet argument est un peu court, parce que de la neige, il y en a parfois beaucoup au Chili, au Népal, en Algérie, en Afghanistan, etc. etc. C'est pas pour autant que ces pays triomphent au jeu d'hiver. Non, le vrai critère, c'est bien celui de la richesse. Quand on regarde la liste des 20 dont je vous parlais à l'instant, on trouve Canada, États-Unis, Russie, Japon et les grands pays européens, Allemagne, France, Italie et les pays scandinaves. C'est le G8 des pays les plus riches, plus ceux dont le PIB par habitant est le plus élevé. Et à l'inverse, si vous habitez dans un pays pauvre, votre chance de figurer au JO d'hiver, elle est nulle. La raison est simple, les sports d'hiver nécessitent de telles infrastructures que ce sont exclusivement des sports de pays riches. Par exemple, regardons le coût de fonctionnement d'une station de ski en France, chiffre d'affaires des grosses stations entre 50 et 100 millions d'euros.
Mais sauf que les Jeux d'été, c'est encore plus cher, non ?
Oui et non, en moyenne, ça ne coûte qu'un peu plus cher. Et la facture la plus élevée, été hiver confondu, c'est quand même Sochi, donc Jeux d'hiver en Russie, il y a 4 ans. Mais surtout, c'est pas tant la facture en tant que telle qui compte, c'est le ratio dépenses-recettes. Et là, les Jeux d'hiver, c'est pas terrible, avec des infrastructures qui, après coup, restent souvent à l'abandon. Conséquence, bah vous avez compris, les pays riches, non contents de rafler toutes les médailles, sont les seuls capables d'organiser les Jeux parce qu'ils ont des stratégies économiques plus globales. Par exemple, pendant ces Jeux de Pyeongchang, la chaîne américaine NBC, elle compte enregistrer des recettes publicitaires records, 900 millions de dollars. Autre exemple, Pékin vient de se voir attribuer les prochains Jeux d'hiver, c'est en 2022. Pourquoi la Chine fait-elle ce choix ? Parce qu'elle veut développer le business de ses stations de ski, CQFD. Soit dit en passant, même les pays riches commencent à se poser des questions. D'une part, en raison de l'inflation des droits télévisés devenus hors de prix. Par exemple, la RTBF en Belgique, elle a renoncé à en transmettre cette année trop cher. D'autre part, en raison, on en parlait à l'instant avec Sandy, du réchauffement climatique. Parce qu'à terme, il va rendre de plus en plus compliqué l'organisation de ces compétitions, même pour les riches.
Et Jean-Marc, Sébastien Lejeune, il va pas être content. Mais juste en 20 secondes, parce que je trouve ça marrant, qu'est-ce qu'il disait Coubertin des Jeux d'hiver ?
En 5 secondes, il était pas chaud du tout non plus, figurez-vous. Et pour les mêmes arguments déjà il y a un siècle. C'est-à-dire qu'il trouvait ça trop mercantile, trop business, trop loin des valeurs de l'olympisme.
Allez, Jean-Marc Four, merci beaucoup. À demain. Le 18-20 continue avec le journal et le téléphone sonne.